L'actualité francophone avec RFI, avec la radio-télévision suisse, avec la RTBF, Radio-Canada et France Inter. Au programme aujourd'hui, des cas de fièvre hémorragique au Nigeria, au Bénin et au Libéria. En France, on verra comment le président Macron a fermé la porte à la plupart des revendications des nationalistes corses. En Suisse, cette histoire de malversation qui entache l'image des très populaires cars postaux, ces cars qui desservent les villages les plus reculés de la Suisse. Au programme également, les Belges qui s'inquiètent de l'avenir de la compagnie Brussels Airlines, l'un des fleurons de l'aviation belge. Et puis au Canada, la course à la succession du chef du Parti conservateur de l'Ontario. Bienvenue à tous, voici l'actualité francophone. Benoît Audet, au Canada, c'est un homme d'affaires qui a retenu votre attention cette semaine.
Tony Accurso, un entrepreneur bien connu au Québec, il a été reconnu non coupable d'une accusation d'abus de confiance au terme d'un procès qui a duré 3 semaines. Tony Accurso devait faire face à 6 chefs d'accusation, mais ils sont tombés en cours de route. L'homme d'affaires n'est toutefois pas au bout de ses peines. Il doit faire face à un autre procès en mai prochain. Le nom de Tony Accurso a été au centre de plusieurs enquêtes en lien avec l'octroi de contrats publics au Québec.
C'était avant même l'ouverture officielle des Jeux olympiques d'hiver en Corée du Sud. La Suisse a perdu l'une de ses espoirs en ski alpin, Pierre-Henri Chauffard.
Oui, le rêve olympique de Mélanie Meillard s'est brisé jeudi après sa chute lors de l'entraînement du slalom géant. Le diagnostic est sans appel, rupture du ligament croisé du genou. La jeune espoir de 19 ans ne rechaussera pas ses skis cette saison. Dans les slaloms de Coupe du Monde, cette technicienne des Raymond s'en valait régulièrement jouer placée parmi les 10 meilleurs cet hiver. En pleine progression, Mélanie Meillard restait certes parmi les outsiders, mais Suisse olympique rêvait déjà d'une médaille pour elle mercredi prochain. Il faudra donc attendre 2022.
Et toujours à propos des JO d'hiver, le portrait de la semaine sur RFI, Charlotte Hydrac, vous nous présentez la seule athlète représentant l'île de Madagascar.
Elle s'appelle Mia Claire, elle a 16 ans seulement, elle se lancera sur 2 épreuves de ski alpin, le géant et le slalom. Mia Claire est née à Madagascar, donc loin des pistes, loin de la neige. Elle a été adoptée en fait toute petite par des parents français en Haute-Savoie et elle a choisi l'an dernier de porter les couleurs malgaches pour donner, dit-elle, une dimension affective à son projet sportif.
En Belgique, Nathalie Devic, on se gargarise d'une belle récompense sportive là encore.
Oui, si vous vous demandiez qui diable pouvait donc être le meilleur hockeyeur du monde, sur gazon, je rassure tout de suite les Canadiens, ne vous torturez plus les méninges, il est belge, un petit jeune de 23 ans, Arthur Van Doren, déjà sacré l'an dernier, espoir mondial. Cette année, c'est la consécration suprême, élu Simply the Best par la Fédération internationale lors d'une cérémonie équivalente au Ballon d'Or en football. Une fierté d'autant plus grande pour notre modeste équipe des Red Lions que le gardien des Lions, Vincent Van Hache, a lui été élu meilleur gardien du monde et leur sélectionneur, Shane McLeod, meilleur coach. C'est ce qui s'appelle faire carte en plein.
En France, c'est la bonne surprise de la semaine pour tous ceux qui ont apprécié Jean Dujardin dans le rôle d'OSS 117. Eh bien, il y aura un troisième opus du film culte relatant les aventures d'Hubert Bonisseur de la Bath. La première fois, c'était en 2006. Jean Dujardin se mettait dans la peau de cette caricature d'espion. Puis il y a eu en 2009, Rio ne répond plus. Eh bien, ce troisième volet annoncé est donc une surprise, car il y a encore quelques mois, le réalisateur Michel Hazanavicius estimait qu'un troisième numéro serait trop compliqué et sûrement trop coûteux à mettre en œuvre. L'équipe a visiblement changé d'avis et prépare donc cette nouvelle histoire d'espion machiste, raciste, grossier, mais finalement drôle malgré lui. L'inquiétude donc en Afrique de l'Ouest, Charlotte Hydrac, inquiétude face à la fièvre dite de Lassa.
Oui, c'est une fièvre hémorragique virale qui peut être foudroyante. Lassa, c'est le nom d'une localité du Nigeria où elle a été identifiée en 1969. Et c'est au Nigeria, justement, qu'on assiste à une recrudescence des cas. 31 morts depuis le début de l'année. Des cas suspects sont aussi rapportés au Bénin et au Libéria. Ce qui est compliqué, en fait, avec cette fièvre, c'est de la diagnostiquer. Les symptômes, quand il y en a, ne sont pas très spécifiques. Fièvre ou maux de tête. Des symptômes qui peuvent ressemblait à ceux de la fièvre Ebola qui avait fait des ravages en Afrique de l'Ouest. Mais pour Pierre Fromanty, spécialiste des fièvres hémorragiques à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il n'y a pas de raison de craindre une propagation dans la région.
La majorité de nos cas sont des gens qui sont exposés soit au rongeur mastomys, qui est le réservoir du virus Lassa, soit à des aliments ou à des objets dans la maison qui ont été contaminés par ces mêmes rats. Donc la transmission interhumaine est limitée, je dirais, par rapport à une maladie comme Ebola. Le fait que les pays en Afrique soient de plus en plus performants au niveau de la surveillance et de la prise en charge fait qu'on détecte beaucoup plus de cas par rapport aux années précédentes.
Des pays qui s'organisent en amont. La Côte d'Ivoire a pris cette semaine des mesures de surveillance. Le Bénin a mis en place des campagnes de sensibilisation. Les autorités du Niger, elles, appellent à la vigilance.
En France, Emmanuel Macron a douché les ambitions des nationalistes corses. Le chef de l'État français a passé 2 jours sur l'île de Beauté, d'abord pour rendre hommage au préfet Erignac assassiné en Corse il y a 20 ans, ensuite pour préciser son projet institutionnel de l'île. Au final, le chef de l'État a rejeté les principales revendications des élus nationalistes. Alors certes, Emmanuel Macron est favorable à une inscription de la Corse au sein de la Constitution française, encore faudra-t-il discuter ferme des modalités. En revanche, pas question de faire coexister la langue corse comme langue officielle aux côtés de la langue française. Il n'y aura pas non plus de statut de résident corse. Enfin, concernant la demande de rapprochement géographique des prisonniers corses détenus loin de leur famille, eh bien là encore, le chef de l'État a fermé la porte. La rupture est donc consommée entre l'Élysée et les nationalistes corses. Jean-Guy Talamoni, le président de l'Assemblée de Corse, y voit du mépris de la part de l'État français et parle d'un rendez-vous manqué.
Disons-le clairement, le président de la République aurait pu s'affirmer comme l'homme d'État, capable à la fois d'enraciner la paix, de construire la réconciliation, de définir un cadre pour un dialogue serein et apaisé, prenant en compte la lutte, les aspirations, les intérêts de ce peuple, car le peuple corse existe. Dont acte, nous considérons donc que c'est une occasion manquée.
Le nationaliste corse Jean-Guy Talamoni au micro France Inter de Cyril Graziani. En Suisse, on va prendre le bus, car l'image des très populaires cars postaux s'est sérieusement ternie cette semaine. En cause, Pierre Anchoffa, quelques malversations comptables.
Oui, les fameux cars jaunes qui desservent jusqu'aux endroits les plus reculés du pays, qui gravissent les cols les plus escarpés au son de leurs klaxons typiques dans les virages les plus dangereux. Mais voilà, cette image de carte postale idyllique est donc méchamment écornée par des pratiques comptables pour le moins douteuses au sein de l'entreprise carte postale, et ce, au détriment des collectivités publiques.
C'est-à-dire, Pierre-Anne, que ces prestations de transport ont été surfacturées ?
Oui, c'est ça, car la Confédération et les cantons subventionnent ce service public, des lignes qui ne doivent bien sûr pas dégager de bénéfices, sauf que Car Postal a soumis des offres surévaluées qui ont conduit les autorités à lui verser trop de subventions, 80 millions de francs suisses au total entre 2007 et 2015, de l'argent que l'entreprise a transféré sous la rubrique « divers » de son budget. Rien n'indique pour l'heure un détournement de fonds à des fins personnelles, mais la Poste, dont Car Postal est une filiale, assure qu'elle fera la lumière sur l'utilisation qui a été faite de cet argent. Elle s'engage surtout à rembourser les montants reçus indûment.
Et alors, qu'advient-il des fraudeurs ?
Eh bien, le directeur de Car Postal et son responsable des finances ont déjà été relevés de leurs fonctions, mais c'est maintenant le siège de la directrice générale de la Poste qui vacille. Des documents attestent qu'elle aurait dû être au courant de ses agissements en 2013 déjà. Les cantons, eux, parlent d'une grave rupture de confiance et réfléchiront à deux fois avant de mandater à nouveau Car Postal pour leur ligne régionale.
Après la route en Suisse, le ciel en Belgique, car les Belges s'inquiètent de l'avenir de la compagnie d'aviation Brussels Airlines. Nathalie Devic.
Oui, l'inquiétude de voir définitivement s'envoler vers l'Allemagne un énième fleuron belge, vers Cologne, siège social de la maison mère Lufthansa depuis 2016. Lufthansa qui a décidé de licencier cette semaine le patron de Brussels Airlines et son directeur financier, belge tous les deux, pour les remplacer par une nouvelle patronne, allemande, arguant d'une incompatibilité de vision stratégique. Avec la crainte de se faire carrément absorber par la filiale allemande à bas coût, Eurowings, il n'en serait rien pour l'instant. Même si le propriétaire et principal actionnaire est allemand, l'ancrage belge devrait être préservé. C'est du moins ce qu'assure le président du conseil d'administration, Étienne Davignan.
La vérité est qu'il reste une société belge, avec un statut belge, donc pas une filiale d'une société.
Qu'est-ce qu'elle aura encore de belge, à part le
Elle aura encore de belge qu'elle est à Bruxelles, qu'elle a 3300 personnes qui travaillent pour elle, qu'elle vole avec une perception à l'étranger, que c'est ce qu'on appelle dans le langage le home carrier, comme Air France, comme Lufthansa en Allemagne. Donc, elle garde le caractère d'une société belge.
Ce qui ne rassure pas, bien loin de là, les syndicats.
Rassurer, non. Parce que quand on parle de doublons, quand on parle de consolidation, ils ne disent pas le mot. Mais moi, je suis certain qu'à un moment donné, il y aura quand même des licenciements. Ça, c'est sûr. C'est un changement de management, c'est un changement de style. On s'y attendait, on le savait, on l'a vu. Donc, on sait que maintenant, on doit être attentif et tenir ce paramètre-là en compte.
Les syndicats craignent des relocalisations, notamment dans l'administration, et de nouvelles conditions de travail détériorées dans l'optique allemande de réduire les coûts. Ce qui ne toucherait pas uniquement notre compagnie, mais toutes les sociétés liées de loin ou de près, comme le bagagiste Swissport, qui vient de renouveler un contrat de plusieurs dizaines de millions d'euros sur 3 ans avec Brussels Airlines. Une bonne part de l'activité de l'aéroport dans la capitale de l'Europe serait ainsi impactée.
Au Canada, le Parti conservateur de l'Ontario, la plus grande province du pays, ce parti doit se choisir un nouveau chef. L'ancien leader a dû démissionner avec fracas après des accusations d'inconduite sexuelle. Et dans cette course à la succession, Benoît Audet, les 3 candidats sont des personnalités bien en vue.
Oui, on retrouve d'abord Caroline Mulroney, la fille de l'ancien premier ministre du Canada, Brian Mulroney, qui a dirigé le pays de 1984 à 1993. Il y a aussi Doug Ford, le frère de l'ancien maire de Toronto, Rob Ford, dont les problèmes de consommation de drogue avaient fait la manchette partout dans le monde. Et finalement, Christine Elliott, la veuve de l'ancien ministre des Finances du Canada, Jim Flaherty. Donc, c'est assez inusité qu'une course à la direction d'un parti provincial rassemble autant de candidats associés de près à des gens connus partout au pays.
Oui, et au-delà de la notoriété des candidats, l'enjeu est encore plus grand.
Le prochain chef des conservateurs ontariens a de réelles chances de devenir le prochain premier ministre de l'Ontario. Les libéraux sont au pouvoir depuis 15 ans et les prochaines élections se tiendront en juin. Par contre, le prochain chef n'aura pas beaucoup de temps pour préparer son programme et ses troupes en vue de la bataille électorale. Bref, les prochains mois seront intéressants. On dit souvent que les Ontariens s'intéressent davantage à la politique fédérale qu'à la politique ontarienne, mais les prochains mois pourraient faire mentir cet adage.
Voilà pour l'actualité francophone de la semaine. Merci aux contributeurs de Suisse, du Canada, d'Afrique, de Belgique et de France. Le prochain rendez-vous, ce sera la semaine prochaine au même endroit et à la même heure.